L'ombre, par China Miéville. Surtout, indiqua une escourte échelle, ne regardez pas en bas. J'avais pas l'intention, rétorqua Zana. Les tuilicoles emmenaient la chevassie et son ami en randonnée sur les toits. Non sans peine. Ainsi durent-ils jeter des ponts de corde par-dessus les gouffres des rues et convaincre les filles de les emprunter. Regardez droit devant vous, leur conseillait-il. Tout à coup, le bêlement plaintif se fit à nouveau entendre. Zana et Diba en restèrent figés. « Pas de panique !» les rassura Inès. « Ce n'est qu'un tripot. »«
Un quoi ?»
Une dizaine de chèvres apparurent alors au détour d'une toiture, observant les voyageurs de leurs yeux étranges. « C'est le nom qu'on leur donne quand elles sont en groupe, un tripot de chèvres de montagne. » À cet instant, Diba crut entrevoir une silhouette pâle se faufilant entre les bêtes. Mais en dehors des biquettes, aucune créature ne bougeait. « Franchement, je ne comprends pas comment vous faites pour vivre en bas, » reprit Inès. « Sans cette liberté, emmurée comme ça. Moi, je suis désolée depuis 3 générations. Ni ma mère, ni ma grand-mère n'ont jamais foulé la terre ferme. Mon arrière-grand-mère, si. Une fois. Un cas d'urgence. Toiture en feu.
Ouah ! » s'extasia Zana.
Les deux filles profitaient d'une pause bien méritée. Elles purent ainsi contempler le coucher de l'antisol qui, prenant la forme d'un arc-en-ciel, brouillait le paysage de l'ombre. Des nuées d'oiseaux se regroupèrent en cercle, par espèce. Pigeons, étourneaux et choucas se dirigèrent vers les grandes tours rectangulaires qui poussaient à travers la transville. Les façades des immeubles se décomposèrent alors en une multitude de tiroirs dans lesquels chaque volatile alla trouver sa place. Après quoi, les compartiments se refermèrent.
« Bien commode, c'est commode !» plaisanta Diba.
« Je ne te le fais pas dire, » confirma Inès. « Sans ça, ce serait le chaos. » Dans le ciel de l'ombre, la lune se levait. Zana et Diba ne s'attendaient pas à pareil spectacle. Cet astre n'était ni un cercle, ni un croissant, mais un ovale très allongé, les deux extrémités pointues. Un peu comme la fente des yeux d'un chat. « La nulle va nous éclairer, » annonça Inès. Les premières étoiles parurent. Contrairement à leurs homologues londoniennes, celles-ci rampaient en tous sens, pareilles à des vers luisants. Un crépitement accompagna l'allumage des lampadaires en contrebas. Une lumière orange s'élevait des gouffres séparant les toits.
« C'était quoi, ça ?» demanda Diba, le regard perdu dans une des ruelles invisibles.
Rien ne bougeait.
« Je pète un câble, » conclut la jeune fille.
« Voilà que j'ai des visions. » Marchant derrière leur guide, Zana et Diba arrivèrent à une crête où une lueur soudaine les éblouit. La source de cette lumière leur apparut bientôt, à quelques rues de là, en lisière du royaume d'Ardoise.
« Trop !» commença Diba. « Beau !» acheva la chevassie.
L'espace d'un instant, elles crurent assister au feu d'artifice le plus impressionnant de tous les temps. À ceci près qu'il était immobile, un immense arbre d'explosions pyrotechniques soudait les unes aux autres, figé. Les traînées de plusieurs fusées composaient un tronc. Puis, à différentes hauteurs, elles partaient former des branches de lumière avant de retomber en saule pleureur. Ses branches vibraient de couleurs, rouge, bleu, vert, argent, blanc et or. On aurait dit des feuilles. Des soleils, des chandelles romaines et des boutons de cierge magique apportaient une note fruitière à l'ensemble.
« L'arbre de Noël !» commenta Inès.
« C'est le bon moment pour le voir, » poursuivit-elle. « Il y a quelques semaines de ça, il dépérissait. Comme sur le point de mourir. Heureusement, la Guy Fawkes Night est son printemps. Les feux d'artifice sont obsolètes dès qu'ils ont éclaté. Chaque année, en novembre, lors de cette fête pyrotechnique, les meilleures pièces d'artifice londoniennes gagnent l'ombre sitôt qu'elles deviennent moules. Elles rendent alors sa jeunesse à l'arbre de novembre. Le reste de l'année, celui-ci perd son éclat, ses couleurs,
jusqu'à n'être plus qu'un squelette fumant à la veille de la Guy Fawkes Night. Mais ce soir-là, le cycle naturel repart de zéro. L'arbre reverdi illumine la nuit. Tandis que Zana et Diba admiraient l'arbre de novembre, elles remarquèrent de petites silhouettes qui en arpentaient les branches et le tronc. Des écureuils. Leurs griffes se plantaient dans l'écorce lumineuse, leur pelage luisait, mais les créatures semblaient à leur aise. C'est là que se sont réfugiés les plus coriaces, expliqua Inès, après l'arrivée des petits gris. Ils sont inifugés, mais ils n'aiment pas en parler. Les rares fois où un gris tente de les rejoindre, il ne va pas bien loin. Pour mieux se faire comprendre, elle mima une explosion. Diba se pencha vers Zana. Si j'avais mon portable, ça ferait une super photo. Une forme vint se poser en piqué au niveau des plus hautes branches de l'arbre de novembre. La plupart des oiseaux avaient déserté le ciel. Mais au-dessus de la cime, un dernier volatile restait solitaire. Il décrivait des cercles. « Drôle de tronche, ce piaf !» jugea Diba. En effet, son crâne présentait une étrange bosse. La lumière de l'arbre de novembre se reflétait dans ses yeux. « T'as raison !» confirma Zana. Mais la créature s'était éclipsée avant que les filles n'aient pu l'examiner. Elle avait rejoint le dernier vol de canards. « C'était quoi ?» demanda Leshfati. Cette dernière n'avait pas achevé sa phrase, qu'Inès poussa un cri qui fit se retourner les deux amis. Dans leur dos, se déplaçant plié en deux comme un singe, vêtu d'une espèce de rideau, Amy s'approchait d'elle en silence. Il allait toucher Zana lorsque l'intervention défensive des tuilicoles le força à se replier, paniqué. Amy s'enfuit comme un dératé, les troupes d'Inès à ses trousses. À la dernière seconde, il parvint à leur échapper en se réfugiant sur une gouttière. De là, il prit son élan et se jeta dans le vide, son habit battant l'air tel une cape. Le demi-fantôme se perdit dans l'obscurité d'une ruelle. Quand ses poursuivants arrivèrent à la gouttière, ils eurent beau scruter le gouffre qui s'ouvrait devant eux, ils ne virent pas trace du fuyard. « Il a filé !» affirma l'un d'eux. « C'était qui ?» demanda Inès à Zana et Diba, qui tremblaient de peur. « Un fantôme !» parvint à dire la seconde. « Il était déjà dans le bus !» compléta la première. « Il nous suit !»